Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, notre chroniqueur du jour, c'est Denis Martin Chabot pour sa chronique Arc-en-Ciel, où il va nous parler de ses coups de cœur littéraires. Et puis en deuxième partie, la Fondation du CHUM lance sa campagne Réchauffons le cœur des patients. Et nous parlons de tout ça avec Claude Meunier, qui est porte-parole pour la Fondation, et Alain Choquette, qui est porte-parole de la campagne. A tout de suite, restez avec nous. Pour l'instant, on part en musique avec Catherine Major qui nous chante Unique survivant.
Tu bouges tes doigts, tu descends dans mon dos, et tu vas là, juste là où il faut un microclimat, où il fait toujours chaud, commissariat, prisonnière de ma peau. À chaque fois, on reprend le flambeau, je sais pas pourquoi. Quand tu ouvres les bras, il n'y a plus que toi qui m'offre le cadeau du dernier décor qui bat. Il n'y a plus que moi qui meurs encore une fois. Je descends sur ton ventre les tremblements quand j'ai pris l'épicentre et que tu comprends qu'il faudra que tu entres et que tu attends dans le feu et la cendre comme un volcan qui ne peut redescendre comme un marchand qui n'a plus rien à vendre. Il n'y a plus que moi couché comme l'océan sous le dernier des bateaux. Il n'y a plus que toi, unique survivant. Languir la langue parmi les mots. Tout est comme on nous semble, forte et piano. Je suis la propagande recto verso d'une affaire à reprendre aux équatoriaux. Je n'ai rien à défendre, il n'y a que le beau dans nos esprits béants qui puisse encore se répandre. Nous sommes le quiproquo. Ces enfants qui nous rassemblent, ce mélange de sang et d'amour tendre, ce passage du temps sur mon méandre, cette voix que j'entends dans le silence, qui me dit qu'elle comprend ce que je pense. Les derniers des amants pourront bien nous attendre ici sur l'océan. Quand je compte les bateaux, je ne vois plus que nous. Ce n'est plus que tout. Je ne vois plus que nous. Pour ce n'est plus que tout. Il n'y a plus que nous. Pour ce n'est plus que tout.
Très belle chanson de Catherine Major. Donc, pour ta chronique arc-en-ciel, Denis Martin, bienvenue. Comme on est à la veille des fêtes, ouais. Bah, tu vas aussi parler de livres parce que finalement, faire plein de cadeaux, il y en a qui servent moins que d'autres. Et le livre, bah, on peut le garder plus longtemps. Donc, pourquoi pas parler des livres,
ouais.
de tes préférences, de ce que tu nous as amené et retenu.
Ben, comme tu sais, Arlette, je lis à peu près quoi? J'ai dit à peu près une soixantaine de livres par année. Ça en fait beaucoup. Alors, je vous le ferai pas la liste des 60, mais mes coups de cœur. Alors, tu me permets, je vais commencer avec le premier livre que j'ai à vous proposer. Puis, je pense que je vous surprendrai pas si je vous parle de La fille d'elle-même.
Oui.
C'est un roman autofictif de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Ça a été le grand succès de l'année dans la littérature de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre. Ce livre raconte l'histoire de la naissance d'une femme, alors une personne qui était assignée garçon à
qui
la naissance.
Qui est née garçon, enfin oui, qui, voilà, ouais. Née garçon alors, et qui a été une femme. C'est, alors dans cet état-là, dis donc, on doit se sentir drôlement mal.
Alors, c'est un récit émouvant du début à la fin, rempli d'humanité. Et puis quelle plume, Gabrielle écrit tellement bien, c'est une poète, hein. Alors, la fille d'elle-même et son premier roman, elle a mis 15 ans, qu'elle m'a dit, à l'écrire. C'est aussi la première autofiction québécoise à aborder la question de la transidentité. Il y a des passages très difficiles dans ce livre, dont celui d'une agression. C'est une agression qui est arrivée dans la vraie vie de Gabrielle. Et puis on parle...
Excuse-moi, mais au moment où elle était devenue femme?
Au moment où elle a commencé à affirmer son identité de femme.
Ça s'est passé quand? Dans son adolescence ou il a fallu qu'elle attende devenir adulte?
Cette agression-là dans la vie de Gabrielle et dans la vie du personnage dans La fille d'elle-même, c'est arrivé lorsque cette personne-là était adulte. Au moment où elle a commencé à aller dans les bars.
D'accord.
Commencé à rencontrer des garçons et tout ça. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante dans ce livre, c'est qu'elle aborde très candidement et de façon très, très claire toute la question des amours compliqués. C'est compliqué pour une personne trans, pour toutes les raisons qu'on connaît, de rencontrer quelqu'un avec tout ce qu'il y a comme problématique.
C'est déjà compliqué en général.
Oui. Et c'est drôle parce qu'il y a quand même plusieurs peines d'amour dans ce roman. Et puis, c'est fou, je ne suis pas une personne trans, mais je m'identifie à ça parce qu'une peine d'amour, c'est universel.
Ah ben ça... Hein? On n'a pas besoin d'avoir...
Et puis toute la question de la dysphorie de genre, parce que lorsqu'elle était toute petite, alors qu'elle était encore dans son identité assignée de garçon, elle ne voulait pas qu'on lui coupe les cheveux. Elle voulait garder les cheveux longs pour être plus belle, plus jolie. Et je vous annonce que ce roman est en 4e réimpression. C'est un roman qui a gagné à Fierté littéraire Le Combat Homo et il est en nomination pour le prix des libraires. Alors, La fille d'elle-même est disponible aux éditions Marchand de feuilles.
J'espère juste qu'elle a eu une famille autour d'elle qui l'a soutenue dans cette histoire, parce que ça, c'est difficile.
Oui, dans le roman, c'est une famille dysfonctionnelle, mais Gabrielle vous assure qu'elle a vraiment eu une famille très supportive.
Déjà, oui. ça conforte.
Oui.
Tu avais eu un très gros coup de cœur, m'as-tu dit, pour un roman, Johnny Appleseed,
oui, de Joshua Whitehead. Alors, c'est vraiment mon coup de cœur cette année. C'est un livre qui était proposé également au Combat Homo à Fierté littéraire. Appleseed. Alors, en français, c'est pépin de pomme. Et puis, une pomme, bon, ça, il faut comprendre, il y a des codes dans ce livre parce que c'est une littérature bispirituelle, donc avec des codes des mots qu'on utilise entre nous, en fait, entre eux, parce que je suis pas des Premières Nations, qu'on utilise entre eux, des personnes des Premières Nations. Alors,
d'accord.
Une pomme, c'est rouge à l'intérieur et c'est blanc à l'intérieur, c'est une insulte.
C'est rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur.
Alors écoute, c'est une insulte que des personnes des Premières Nations peuvent se proférer l'une envers l'autre, c'est-à-dire d'avoir l'air d'un NDN. Ah, ça c'est une autre chose. NDN, qui est une expression qu'on trouve dans le livre, qui est Indian, hein, indien. Alors, c'est souvent comment il va se décrire dans le livre où il parle des trucs NDN. Alors, c'est souvent d'avoir l'air donc d'une personne des Premières Nations à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est comme une personne blanche. Et là, lui, pour l'insulter davantage, on lui dit « Ben, t'es juste un pépin de pomme. »
Ah, d'accord.
Ouais.
Oui, c'est la grosse insulte, ça.
Alors, Johnny Appleseed, quand même, c'est l'un des 100 meilleurs titres de 2018 selon le Globe and Mail. Il a été traduit de l'anglais au français par Ariane Desrochers. Je vais vous lire un petit peu le résumé proposé par leslibraires.ca parce que ça, c'est meilleur que ce que moi j'aurais pu écrire. Vivant hors réserve et cherchant tant bien que mal à s'acclimater à la vie urbaine, Johnny Appleseed devient travailleur du cybersexe pour gagner sa vie. Il a devant lui très exactement une semaine avant de devoir rentrer à la réserve pour assister aux funérailles de son beau-père. Les 7 jours qui suivent se déclinent comme un rêve enfiévré, histoire d'amour, traumatisme, sexe, liens familiaux, désirs et ambitions, souvenirs déchirants de sa cocoum. Une cocoum, c'est une grand-maman si chère. La vie de Johnny consiste en une série de ruptures, mais aussi de liens inextricables. Tout en se préparant au retour à la maison, Johnny tente de rassembler les divers morceaux de sa vie. Alors, Joshua Whitehead, c'est un poète romancier bispirituel autochtone du Canada. Il est membre Ojikri de la Première Nation manitobaine de Pigwis. Il est l'auteur du recueil de poésie Full Metal Indigiqueer, publié en 2017. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est très reconnu. Il a reçu le prix d'histoire du gouverneur général en arts et récits autochtones en 2016. Alors, écoute, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce livre-là. C'est publié en français chez Mémoire d'Encrier. Moi, je recommande ce livre-là.
Alors, avant qu'on parte en musique, juste une question. Qu'est-ce qui est venu, toi, Denis Martin, te chercher dans ce livre?
Je pense que c'est le cri du cœur de cette personne qui est différente, qui se sent rejetée. Elle est rejetée par les gens sur la réserve et rejetée par le monde où il se retrouve au Manitoba et qui n'a pas sa place finalement nulle part. C'est comme un vieux pépin de pomme qui traîne, qui ne sait pas où. Alors, vraiment, moi, ce livre, c'est venu me chercher. Ça me fait comprendre des réalités très, très dures que les personnes des Premières Nations vivent. Et cette douleur, ce mal de vivre quand on se retrouve rejeté un peu partout et qu'on n'a pas le goût d'aller retourner là où d'où on vient, mais qu'on n'a pas le choix. Vraiment, et c'est une telle violence par moment, c'est cru un peu comme livre. C'est clair que c'est pas une lecture pour se réjouir pendant le temps des fêtes, mais c'est une bonne lecture, ça fait c'est important de le lire.
À apprendre, et puis au moins ça aide, parce que le regard qu'on peut porter aussi, des fois sur ce qu'on sait ou qu'on croit savoir ou qu'on imagine, au moins là, on a des explications plus, même si elles sont crues, qui sont véridiques et qui sont là.
Voilà.
On va faire une petite pause musicale et puis pendant cette pause musicale, tu choisiras les autres livres dont tu veux nous parler.
Tout à fait.
Et puis on va partir avec, alors dans les propositions de musique que Maurice Bolduc m'a envoyées, il y avait la chanson de Fred Pellerin, Relève-toi, et je trouvais qu'elle allait très bien dans le cadre de ce dont on parle pendant cette demi-heure. Alors on part avec Fred Pellerin qui nous chante Relève-toi.
T'es allé jusqu'au bout, tu ne brancheras pas à l'arrivée du loup. Ta douleur est figée et elle défie le temps. Tu ne sens plus le vent et pourtant tu l'entends. Relève-toi. Sous un ciel si noir qu'un couteau pourrait fendre, ton silence et la nuit sont venus pour s'entendre, immobiles et soumis dans ton corps animal. À ta vue obscurcie apparaît l'ange du mal. Relève-toi. N'entends-tu pas ici, au bout de ta bravoure, le pas du guerrier que reprend le tambour, qui résonne du berceau et qui gronde sous la terre? C'est ton sang qui se bat et qui réclame son père. Relève-toi. L'herbe perce les terres brûlées, la source jaillit du rocher. Elle essouffle sur tes cendres, que ta braise s'enflamme. C'est ta vie qui veut vivre et qui parle à ton âme. Écoute son chant qui remonte du gouffre et qui afflue sous la peau dans tes membres qui chauffrent. Allez, pousse un peu plus loin. Allez, redresse la tête. Érige ton royaume sur la voie de tes ancêtres. Relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Relève-toi.
Alors, on va parler donc d'autres livres et d'un autre titre qui a beaucoup retenu ton attention, c'est « Désormais ma demeure » de Nicolas Dawson.
Ah oui, alors ça, c'est dans un registre complètement différent, mais toujours, on est toujours un peu dans l'autofiction. En fait, l'auteur ici raconte sa dépression. Nicolas Dawson a eu une grosse dépression dans sa vie, Mais on n'est pas dans un livre déprimant.
D'accord.
C'est loin de là.
Parce que quand on parle de dépression, tout de suite, on s'imagine que le livre va être lourd et...
Ah non, pas du tout. En fait, ce gars a un talent fou. Ben, je vais dire, avant d'en parler, c'est quand même le livre qui a gagné cette année le lauréat du Grand Prix du Livre de Montréal 2021.
D'accord.
Il est aussi lauréat du Prix de la diversité Métropolis Bleue, Conseil des arts de Montréal 2021.
Wow!
Écoute, il y a toutes sortes d'autres distinctions. Alors, ici, Nicolas Dawson allie le récit, l'essai et la poésie.
D'accord.
Et si vous avez vécu un épisode de dépression dans votre vie, vous allez certainement vous reconnaître là-dedans, d'abord. C'est brillamment éclairé. Oui, c'est triste, mais c'est beau en même temps. Et Nicolas raconte sa dépression, il l'explique et en fait de la poésie.
Là, c'est autre chose.
Elle devient aussi une part importante d'un processus de libération queer. Et c'est donc un livre, c'est un livre de coming out? Non, c'est un livre de renaissance. Hein? On renaît de ses cendres. C'est vraiment une belle analogie, c'est vrai.
C'est beau dit comme ça.
Alors, d'origine chilienne, Nicolas Dawson inclut la racialisation et la marginalisation dans son processus d'écriture. Son attachement à sa famille, c'est vraiment sa planche de salut et ce qui lui permet de s'accrocher à la vie.
Comme quoi, hein, ça compte quand la famille est avec toi et derrière toi, c'est important pour tout ce qu'on traverse.
On est à la radio, mais à tout bout de champ dans le livre, on trouve des photos qui, si je me rappelle bien, qu'il a prises lui-même alors qu'il était affalé au sol où ça n'allait pas. Et c'est des morceaux de sa demeure, un bout de plancher, un cadre de porte, un coin de
mur. De ce qui était dans sa vision à ce moment-là.
Et ça agrémente aussi la lecture. Alors vraiment, moi, ce livre, je le trouve vraiment bien et je ne suis pas tout seul à le croire puisqu'il a gagné plein de livres comme ça. Et c'est une lecture que je vous recommande. En soi, c'est un beau cadeau pour les fêtes.
Voilà. Alors désormais, Ma demeure de Nicolas Dawson.
Aux éditions Triptyque.
Alors maintenant, passons à une prochaine suggestion qui est La Minotaure de Marie-Ève Maréchal.
Ah oui, là, c'est une littérature costaude, je devrais dire. Le Minotaure, d'abord, vous savez que c'est un monstre fabuleux au corps d'homme avec la tête de taureau. Alors, mi-homme, mi-taureau, dans ce cas-ci, c'est la Minotaure.
Oui, c'est pour ça que ça m'a fait rire l'article, alors, ça m'a fait dresser l'oreille.
Oui, alors on a féminisé le terme. Et en fait, Marie-Ève Maréchal, qui est l'autrice, je devrais dire, parce que c'est une personne non-binaire, en fait un monstre intérieur. Ce monstre du genre bonhomme 7 heures, là, qui illustre tout l'effroi de la narratrice terrifiée par l'idée de vivre. Elle y raconte donc son enfance par des notes dans lesquelles elle cherche à expliquer l'origine de toutes ses peurs. C'est une série de courts textes qu'elle adresse à Maud, c'est une amie décédée, donc à qui elle écrit.
Ah, d'accord.
Oui. Et elle y relie donc son enfance et sa vie actuelle. Elle explique la mort qui la guette en raison de son besoin d'exister. Hein? C'est extraordinaire. Moi, je lisais ce titre-là. C'est une très, très belle poésie. On n'a pas vraiment le temps d'en lire des extraits, mais je vous affirme que c'est vraiment bien. Donc, c'est un récit d'affirmation d'une personne à travers la violence patriarcale, blanche, impérialiste, de genre et de classe sociale. Marie-Ève Maréchal, comme je dis, s'identifie comme une personne non-binaire. Elle est une personne écrivaine et chercheuse en littérature des femmes LGBTQIA+, et francophone. Donc, La Minotaure, que je vous recommande, aux éditions Triptyque, a été finaliste au prix du gouverneur général en 2019, catégorie romans et nouvelles.
Alors après, on en a plusieurs autres dont tu vas pouvoir parler, mais d'une façon nettement plus courte.
Oui, tout à fait.
À cause du temps de Denis
tout
Martin, pas parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, il y avait des 10 pics sous les étoiles de Pierre-André Doucet.
Oui, alors voici un espèce de roman initiatique, je devrais dire, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dans la mi-vingtaine qui collectionne les diplômes et les dettes et qui doit retourner chez eux parce qu'il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il laisse un amoureux à Montréal et l'amour à distance qui s'effrite et qui ne va pas très bien. Très, très, très bien écrit dans la langue crue et une langue acadienne. Donc, on entend les accents de l'Acadie là-dedans.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un 10 pic?
Ah, qu'est-ce que c'est, un dick pic?
Un dick pic, oui.
Bon, alors, de toute façon, de toute évidence, tu n'en as pas reçu. C'est un homme qui prend une photo de ses appendices en dessous de la ceinture et qu'il envoie ça. Alors, souvent, entre hommes gays, ça s'envoie et puis les gens sont consentants à les recevoir habituellement. Alors, c'est un peu l'idée...
Parfois, ça peut être envoyé de façon
non prévue,
non acceptée.
Mais vraiment, un très beau roman qui est publié chez Prise de Parole, que je recommande.
D'accord.
Et t'en veux un autre, on attend d'en parler d'un autre. Ah, ben là, c'est merveilleux, tu vois, on va parler de plusieurs choses. Moi, j'aimerais vous recommander... attends, je retrouve plus mes feuilles, ça va bien, hein?
Ah, ben alors, qu'est-ce que tu voulais nous recommander?
Je voulais vous recommander... attends, je vais le retrouver. C'était Les carnets de l'Underground de Gabriel Cholette, voilà. C'est un livre brillamment illustré par l'artiste montréalais Jacob Pine, ou Pine, je ne sais pas comment prononcer son nom, mais c'est quand même des illustrations assez osées. C'est un livre aussi qui n'est pas pour les cœurs sensibles. C'est, donc, on est dans le monde des bars underground, queer, de New York, Berlin et Montréal. Et ici, les salles de toilettes ne sont pas des endroits uniquement pour faire ce qu'il faut. C'est aussi là qu'on va aller sniffer de la kétamine. C'est la kétamine qui gère tout ce qui se passe dans le bar. Et c'est vraiment écrit comme si on était en train de lire des statuts Instagram.
Ah, d'accord. Donc, c'est quand même assez sombre et on nous entraîne avec lui dans les endroits...
Mais je ne vous propose pas toujours des titres pour se réjouir. Je vous propose des titres pour vous, pour stimuler notre intellect. Et vraiment, un très, très, très beau livre aux éditions Triptyque que je recommande.
OK.
Il y en a d'autres, mais...
Après, encore un ou deux autres, si tu les lis vite, des petits titres, des titres en rafale.
Des titres en rafale,
oui. Il y a Valide de Chris Bergeron,
Oui, alors ça, c'est un titre, c'est un livre qui est c'est de l'auto-science-fiction. Un roman de science-fiction auto-fictif.
Oui.
C'est donc Chris qui parle à une machine qui s'appelle, je pense que c'est David.
David, une intelligence artificielle.
Et là, c'est toute une question une intelligence artificielle un peu à la Big Brother. Et donc, qui essaie de s'émanciper de cette intelligence-là, qui l'empêche d'être qui elle est vraiment, cette personne-là, d'accord, qui est une personne trans. Donc ça, c'est chez XYZ. Je recommande, très, très, très bon titre.
Après, il nous reste un autre titre à faire, peut-être la balançoire de Jasmin,
Hamad Dany Ramadan. Oui, ça c'est une traduction, j'ai beaucoup aimé ce titre-là, où on parle donc d'une relation amoureuse qui s'étiole après avoir passé...
D'un couple, puis c'est des Syriens, en Syrie, en guerre.
Oui. Alors, vraiment, c'est un très, très beau roman sur le coming out, des leçons de vie, sur la critique de l'autoritarisme. C'est aussi comment on accompagne quelqu'un à la mort en lui racontant des histoires pour essayer de le tenir en vie tout le long. Alors, ça, c'est Mémoire d'encrier, La balançoire de Jasmin. Très, très, très beau titre. C'est un beau livre à lire. Voilà. Mais j'en ai pleuré en lisant ce livre-là, moi.
Alors donc, à apprendre. Maintenant, juste comme ça pour les dire assez vite, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler.
Oui.
On peut parler du livre de Samuel La Rochelle.
Oui, J'ai échappé mon cœur dans ta bouche. Très, très beau roman. Roman, récit et poésie, et toujours dans une optique queer. Et si vous aimez la science-fiction, les livres fantastiques, fantaisistes, Le sculpteur de vœux de Philippe Aubert Côté, une belle brique. Et je termine avec The Family Way en anglais, si vous lisez l'anglais, de Chris DiRado.
Bravo, merci pour tout ça. Régoutez l'émission pour entendre tous les titres. Mais pour l'instant, on part en musique avec Vanessa Paradis qui nous chante Dans notre monde.
On vous laisse quelques routes, oubliez les moindres doutes, sentir quelques vents contraires, ne plus savoir comment derrière. On se traite, on se jure, et nos cœurs sont toujours purs. De n'avoir pas tant aimé, juste à force d'y penser. On voulait des chemins clairs, mettre au jour de la lumière, d'un soleil personnel. Nos ombres ne sont plus les mêmes. Cette aube n'a jamais fini, c'est les autres qui l'ont dit. Il faut bien qu'il y ait une fin à ceux qui n'attendent rien. Il est un autre monde.
Il est un autre monde.
Il est un autre monde.
Dans notre
murmurations, et la terre est un balcon. Tous de leurs baisers. Les jours sont-ils des livres qui attendent qu'on les délivre? Aucun arbre, je le sais bien, ne croit en son destin. Pas une plaine ne se plaint du secret de son chagrin. Il est un autre monde.
Restez avec nous, puisque dans la prochaine demi-heure, on parle de la Fondation du CHUM avec sa campagne « Réchauffons le cœur des patients ». On en parle avec Claude Meunier et Alain Choquette dans un instant. Claude Meunier qui est porte-parole pour la Fondation du CHUM et Alain Choquette qui est porte-parole de la campagne. Denis Martin, tu es prêt ?
Je suis prêt.
Alors, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Besoin de pensée positive éteint l'ordinateur. La méthode coup est optimiste, je parle pas de l'animateur. De manière générale, il faut rester ouvert. Mais si on parle mal, j'ai pas envie de me taire. Ouais, et c'est jamais, jamais vraiment la même. Et ça, moi j'en suis persuadée. Si je me suis pas vraiment promis à moi-même que cette fois c'est sûr ça va aller. Et tout ce temps l'a perdu à l'échanger. Je laisse béton, c'est foutu, ils sont perchés. Et puis on l'espère, ce sera mieux demain. Meilleure atmosphère, pas comme 2020. Jamais assez, toujours plus fort. Je vais vous laisser, je fais trop d'efforts. Quand on nous met de côté en nous disant qu'on a tort, comme si ça pouvait changer, nous on chante encore plus fort. Jamais assez, toujours plus fort. Passe-moi un nouveau verre. L'époque n'a pas vraiment changé depuis celle des lumières. Faut bien rester honnête. Boomer versus jeunesse. Et ça se voit sur nos têtes. C'est pas toujours la fête. Et tout ce temps l'a perdu à l'échanger. C'était vraiment rien à faire. Esprit fermé. Et puis on laisse faire tous les médisants. Et on en reparle avec eux dans 10 ans. Jamais assez, toujours plus fort. Je vais vous laisser, je fais trop d'efforts.
tentative ou de changer d'époque. Depuis 1995, j'ai confiance qu'en mes potes. Il faut rester solide, de tout on se souvient. Et soyons réalistes, le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Le monde nous appartient.
Alors, on vient d'entendre Angèle qui nous chantait Pensée positive. Et justement, à propos de Pensée positive, eh ben, on va parler de la fondation du CHUM avec Claude Meunier. Bonjour, Claude Meunier.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour. Ben oui, ça va bien, vous aussi.
Alors, parlons un petit peu de la fondation.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente?
Qu'est-ce qu'elle représente? Ben, écoutez, la fondation... D'abord, elle est dédiée à tous les patients du CHUM. C'est une fondation qui accueille des dons de donateurs privés et de patients, d'anciens patients ou de tout le monde. En fait, c'est la fondation qui s'occupe de ramasser des fonds qui vont directement aux soins des patients, puis qui vont aussi pour faire de la recherche, qui vont aussi pour soutenir finalement tout un volet du CHUM qui a rapport avec les patients, en fait, avec tout ce qu'on peut imaginer dans un hôpital, quoi.
Là, vous avez fait une première partie, si j'ose dire, avec tous ceux qui vous aident d'habitude, qui aident la fondation,
qui ne sont pas
le grand public, sont des donateurs bien précis que vous avez régulièrement.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des donateurs privés. Il y a des donateurs, c'est-à-dire il y a des grands donateurs. Ce qu'on appelle les grands donateurs, il y a des gens qui vont donner des gros dons à travers leur compagnie, qui vont faire des dons récurrents, qui vont faire, par exemple, un don de 500 000 $ qui va être réparti sur 10 ans, par exemple. Ça, c'est des dons, des grands donateurs qu'on appelle, c'est souvent des entreprises qui vont donner. Puis au Québec, puis aussi, on a aussi des gens qui ont été opérés au CHUM, qui ont eu des soins, qui décident, par exemple, de donner, de faire des dons suite à ça. Mais il y a aussi une campagne publique qui est commencée là, depuis à peu près un mois.
Ah, mais là oui, la campagne du public, oui. Mais je parlais des donateurs de la Fondation, des donateurs un petit peu plus réguliers, quoi, si on peut dire.
Mais qu'est-ce que vous voulez savoir là-dessus? Je comprends pas
votre question. Je vous dis là vous aviez commencé les dons avec les donateurs et maintenant ça passe au public.
Oui, tout à fait, exactement. Il y a la campagne publique.
C'était pour vous dire ça. Les deux campagnes étaient différentes.
Oui, oui.
En fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a une phase discrète de la campagne où les gens du cabinet de campagne ou le comité d'honneur, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais qui vont chercher donc les donateurs privés, les grandes sociétés.
Vous savez, c'est ce qu'on appelle les grands donateurs, en fait.
Ouais.
Nous autres, dans notre jargon, là, mais c'est des gens qui donnent pas nécessairement une période précise de l'année, c'est toute l'année qu'on cherche des donateurs. Okay. C'est vrai, il y a une tradition très, très développée dans le monde anglophone, au niveau de la philanthropie, les gens participent beaucoup, les entreprises, depuis toujours. Au Québec, Québec francophone, un peu moins, mais là, ça commence à s'améliorer. On a des gens comme Québécois qui ont beaucoup donné. Ils ont fait des dons de 15 millions de $ il y a quelques années. On commence à avoir de plus en plus de gens qui donnent, des grands donateurs comme ça, qui donnent à la Fondation, vous savez. On a plein de groupes comme Solotech. En tout cas, je ne peux pas tous les nommer. Honeywell, Banque Nationale, on a plein, Pomerlo.
Vous êtes soutenus.
Les grands donateurs qu'on appelle.
Ouais.
Mais là, on est dans la campagne publique.
La campagne publique, moi, c'est là où ça m'intéresse parce que je vous pose la question.
Denis
Martin Chabot, je suis chroniqueur ici et une fois de temps en temps, je participe donc une fois par mois à l'émission. C'est que moi, ça m'interpelle un petit peu parce que je sais que cette année, c'est particulièrement difficile de mobiliser les gens dans le cadre de campagne de financement. Je pense à la Grande Guignolée la semaine dernière, qui était quand même 800 000 $ si j'ai compris, en retard sur la même date l'an dernier. Comment ça va pour vous?
Je ne suis pas au courant des chiffres encore, parce que ça finit le 31 décembre. Ça commence, en fait. Ça a commencé, ça fait 15 jours à peu près. Fait que je ne sais pas comment ça va, les chiffres. Là, je ne regarde pas ça, moi, tant que ce n'est pas terminé.
Oui.
Bon an, mal an, on va chercher autour de... ça dépend, quelques centaines de milliers de dollars, mais effectivement, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de l'argent parce que les gens sont sollicités de toutes parts, puis avec la pandémie, etc., etc. Mais on a eu le public a très bien répondu cette année parce qu'on a fait, à un moment donné, on a fait une levée de fonds pour la recherche, pour le CRCHUM, qui est le centre de recherche du CHUM, mm-hmm. qui est un centre de recherche qui, cette année, travaillait beaucoup de concerts avec d'autres chercheurs pour travailler contre la COVID, pour des médicaments contre la COVID, pour le vaccin contre la COVID, qui a travaillé beaucoup avec des gens d'Emma Québec, entre autres, et tout ça. Fait que ça, on a eu une bonne réponse du public. Puis je pense que les gens commencent à avoir justement le sentiment que le CHUM, c'est notre hôpital. Le CHUM, vous savez, c'est un hôpital, c'est l'hôpital des hôpitaux hein, au Québec. C'est l'hôpital où tous les spécialistes, en fait, les grandes spécialités sont réunies. Il y a 14 000 personnes, qui travaillent au CHUM. On a presque 500 000 patients par année qui passent au CHUM. Fait que c'est énorme. 14 000
personnes qui travaillent, ça fait un...
Pour ceux qui sont jamais passés, moi je suis passé par là cette année pour un examen qu'on appelle une colonoscopie et puis j'ai été absolument épaté parce que j'ai vu, c'était la première fois que je mettais les pieds dans cet endroit-là. Puis,
c'est tellement une belle affaire, une colonoscopie.
Non, c'est, ouais, ça c'est autre chose. Là,
ça c'est autre chose. Il parlait mais de fait d'être bien reçu.
Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est surtout ce qui se passe avant la colonoscopie qui est moins intéressante parce qu'après, on n'est pas tout à fait conscient. Mais non, je voulais vous dire que c'est quand même, les gens qui ne savent pas, il y a un personnel, c'est un hôpital extraordinaire, c'est beau, c'est organisé, mais il y a aussi un personnel incroyable dans cet hôpital-là.
Oui, puis c'est les gens, comme je dis souvent, je le répète à l'occasion, mais c'est l'hôpital de tous les Québécois. T'sais, si quelqu'un est malade en région puis qu'il a besoin d'un spécialiste très pointu, une spécialité très pointue, ben il va être traité aussi au CHUM. Puis c'est un hôpital, oui, c'est un hôpital universitaire, donc c'est un hôpital qui est affilié avec un centre de recherche, puis on est très, très un hôpital de pointe. On a été nommé c'est l'hôpital où l'intelligence artificielle est le plus développée actuellement. Il a été nommé l'hôpital numéro un au Canada, mais tu sais, je suis pas là pour faire la promotion du CHUM dans le sens de sa qualité.
Ouais.
Mais c'est important les dons que le public fait au CHUM parce que c'est ça qui aide aussi. Parce qu'un hôpital, c'est sûr, c'est un hôpital qui nous a coûté cher aux Québécois, mais il fallait qu'on arrive là un jour parce qu'on était vraiment en retard sur les hôpitaux de d'autres villes majeures comme Montréal. Puis là, maintenant, ben il faut qu'on s'habitue, je pense, les Québécois, à contribuer à notre système de santé, comme ça se fait partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a des fondations d'hôpitaux. Puis c'est des dons qui souvent sont directement reliés avec les patients, qui vont aider au confort des patients dans les chambres, dans les traitements, dans des traitements particuliers. En tout cas, c'est important, très, très important que les gens donnent. Comme les gens, tu sais, le CHUM, c'est un peu le Sainte-Justine des adultes. C'est-à-dire, quand les enfants sont malades puis ont besoin de soins très particuliers, bien, on se retrouve à Sainte-Justine. Bien, nous autres, au Québec, quand on a besoin de soins très particuliers, très pointus, bien, on se retrouve au CHUM.
Ben c'est oui, ça, voilà. En fait. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, il faut donner. Bien, écoutez, merci de nous avoir répondu parce qu'on arrive un peu à la fin de cette entrevue. Après, nous allons parler mm-hmm. pour la prochaine partie de l'émission avec le porte-parole pour la campagne, Alain Choquette.
Oui, voilà. Oui.
Donc, il va nous donner son point de vue de son côté. Donc, merci
J'espère
à vous.
J'espère qu'il ne sera pas contradictoire avec moi.
Non, ben, je pense qu'il va parler plus de son expérience, lui, qui a quand même...
Son expérience personnelle.
Oui, Alain a été traité
merci.
Aussi. Ouais.
Merci beaucoup. Donc,
merci à vous.
À bientôt. Bonne continuation pour tout. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Alors, on part en musique avec Mariem et... accompagné de Lost qui nous chante nouveau niveau.
Hey, on sait qui est le top, toi c'est qui t'es top. S'il y a pas Mariem ou Lost, t'as pas droit au vote. Faut marquer l'époque, t'as marqué l'époque. Tu suivais les modes, nous on défonçait les portes. T'écoutes pas, t'écoutes pas. T'écoutes pas, mais là pas le choix, t'écoutes ça. T'écoutes pas, t'écoutes pas. T'écoutes pas, mais là tout le monde écoute ça. Nous, on sait que le meilleur est à venir faire. Tu sais que le meilleur est là derrière. On prend de main et on te laisse hier. Et on t'enterre. On sait que le meilleur est à venir faire. Tu sais que le meilleur est là derrière. On prend de main et on te laisse hier. Et on t'enterre.
mon bébé. Pour faire confiance à Baba. La routine nous a hébété. Laisse-les, de toute façon la porte on va péter. Et regarde comment on le dead. La musique c'est mon dada. La balle est dans mon corps comme Nadal. Nadal, t'étais où quand j'avais nada.
On sait que le meilleur est à venir, frère. Tu sais que le meilleur est à derrière. On prend comme un lion de laissière.
Maintenant, parlons de la campagne Réchauffons le cœur des patients avec son porte-parole Alain Choquette. Bonjour Alain Choquette.
Bonjour vous, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Alors, comment va votre cœur aujourd'hui? Il est bien réchauffé?
Il est réchauffé, il va bien, c'est déjà bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, vous, de votre expérience, puisque c'est grâce à cette expérience que vous êtes devenu le porte-parole de la campagne?
Oui, ben en fait, moi, j'étais déjà engagé avec le CHUM il y a plusieurs années, avant même la construction de l'hôpital qu'on a maintenant. Je m'étais associé avec la Fondation et je suis parti pour la France pendant 5 ans, donc j'ai dû laisser ça de côté. Mais en revenant, la vie m'a forcé à retourner aux sources et l'accident cardiovasculaire m'a permis de vraiment découvrir ce lieu merveilleux qui est un des meilleurs hôpitaux au monde, tant au niveau des services, de la qualité. On parle des médecins, on parle des infirmiers, on parle infirmières, on parle même des préposés qui sont dévoués, avec qui j'ai vécu des bons moments malgré tout. Et je pense que c'est un lieu qui est important parce que donner à la Fondation du CHUM, ben, c'est aussi donner à des services, bien entendu. Mais c'est aussi la recherche, c'est aussi notre avenir. C'est un peu un investissement en nous-mêmes. Ben alors, voilà.
Alors, oui, monsieur Choquette, je suis Denis Martin Chabot. Je suis le chroniqueur aujourd'hui à l'émission avec Arlette. Mais justement, à quoi sert cet argent qu'on va donner à la Fondation?
Ben, ça va aller pour toutes sortes de services. La qualité des services, la recherche, comme je vous disais, des choses aussi simples comme des appareils qui permettent aux gens de communiquer avec leur famille à l'extérieur qui ne possèdent pas. Des machines pour désinfecter les chambres de haute qualité. Alors, tout ça, c'est des petites choses qu'on ne voit pas, qui font partie du quotidien, mais qui sont d'une grande
utilité.
Oui. Mais ce sont des appareils pour les patients, que le financement public ne paierait peut-être pas nécessairement. Donc, c'est une bonne façon d'aller faire ça, effectivement.
Ben exactement. Puis le public n'investit pas en totalité dans la recherche non plus.
Tout à fait.
On a entre autres une découverte dont je disais que le CHUM avait fait, c'est au niveau de la COVID. J'oublie là, parce que c'est loin, mais il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas, mais que le CHUM collabore. Vraiment de façon importante.
C'est ça, vous êtes capable d'en témoigner de première main parce que vous avez vécu cette expérience-là. Puis en fait, je fais le même commentaire tout à l'heure avec M. Meunier. Moi, j'ai vécu, c'était une petite affaire de rien, mais quand même, j'ai quand même été pour la première fois au CHUM comme patient depuis qu'il a été construit cette année. Et c'est incroyable. Et moi, j'ai une petite anecdote parce que je trouve ça important de le dire, c'est le personnel est incroyable au CHUM. Quand je me suis levé de mon lit après mon examen, j'ai fait une chute de pression et puis je me sentais complètement partir puis m'effondrer par terre. Et il y a quelqu'un qui m'a attrapé avant même que mon visage touche le sol.
Ah ouais, hein?
Ils sont incroyables. Ils l'ont vu venir.
J'avais une infirmière, j'étais là 2 semaines, qui prenait des prises de sang tous les matins à 6 heures, puis qui rentrait. Bon, c'est la vampire qui arrive. c'est quand même, bon, ben, ça part une journée, en effet. Mais ça,
ça compte aussi.
On dit toujours c'est pour les autres, hein, tant qu'on ne l'a pas vécu.
Oui.
Mais moi, j'étais content d'avoir un hôpital. Moi, j'habite dans le Vieux-Montréal, juste à côté, à 3 minutes de voiture. Puis je me dis, quand je vais être vieux, je serai pas loin.
Mais vous n'êtes pas vieux, là.
Patients, mais bref.
Vous n'êtes pas vieux, vous l'avez utilisé tout de suite. Fait que tu vois, c'est...
oui, exactement. Exactement. Et en même temps, ma situation, j'aime bien sensibiliser les gens parce que moi, je suis une personne qui fait beaucoup de sport, qui s'alimente très bien, qui fait de l'entraînement 5 jours par semaine. Et malgré tout ça, j'ai vécu un accident au niveau du cœur à cause de mes gènes. Donc,
il y a des antécédents.
Oui, exactement. Quand même sensibiliser les gens qui pensent que tout va bien, si vous avez des antécédents ou des gènes cardiaques dans votre famille, ne pas négliger ça, allez faire vos tests sanguins, allez vous faire surveiller.
Moi, j'aimerais, je vous êtes porte-parole de la campagne, on sait comment c'est compliqué de faire du financement ces jours-ci. Tout le monde est en campagne de financement à ce temps-ci de l'année de toute façon, mais en plus de ça, on l'a vu la semaine dernière, la Guignolée qui s'est retrouvée avec 800 000 $ que j'ai vu de moins que l'année précédente à pareille date. Comment ça va la campagne cette fois-ci pour vous?
Écoute, je ne sais pas comment ça va, sauf ce que je sais, c'est que il y a le meilleur tour de magie que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de faire un don, et le don sera doublé par des donateurs.
Ah, oh, c'est bien
ça! C'est adorable d'entendre ça!
c'est
tellement fort, drôle, vous, là!
C'est ça, assez fort, ça! Donc, il y a des donateurs qui vont doubler votre don. Donc, si vous donnez votre montant, ça va être 2 fois la valeur. Alors, c'est une belle façon de faire notre petite part dans la société.
Et comment on s'y prend pour faire des dons?
Vous allez sur le site du CHUM, vous avez toutes les informations, Fondation du CHUM, soit par le site web où il y a un numéro de téléphone aussi, donc vous pouvez l'utiliser. Alors, il y a 2 façons de le faire. Et moi, je vois vraiment ça. Vous savez, on a une population vieillissante. On va avoir besoin de ces endroits-là de plus en plus dans le futur. Et à un moment donné, on va être débarrassé d'un virus et on va pouvoir profiter.
Oui, mais il n'empêche que les autres maladies...
Pas le bon mot, mais...
Les autres maladies continuent d'exister. Elles ne sont pas anéanties pour autant. Donc, il faut aussi de l'espace pour les gens qui en ont besoin, quoi.
C'est ultra moderne. Moi, quand le lendemain de mon opération, j'avais des grands corridors où je pouvais aller faire des marchés... Et vraiment là, j'arrivais d'une série de spectacles de France et ça faisait 2 semaines que j'étais revenu, puis j'aurais pas voulu vivre ça dans un autre pays. Puis en même temps, j'étais chanceux dans ma malchance. J'étais vraiment impressionné. À un moment donné, il y a une nutritionniste qui venait me voir en début de semaine pour me proposer des menus pour la semaine selon ma condition, tout ça. Alors, vraiment, là, c'est un endroit là, indispensable.
C'est presque un service où on irait comme à l'hôtel, mais ça ne va pas être le cas. On laisse la place à ceux qui en ont besoin. Merci.
Ouais, aller à l'hôtel de préférence.
Oui, ce sera de préférence. Merci Alain Choquette. On est à la fin de cette entrevue. Merci beaucoup de nous avoir répondu.
Allez, merci à vous deux.
Bonne continuation pour cette campagne Réchauffons le cœur des patients, parce que c'est le cas. Merci Alain Choquette. Au revoir.
Salut, ciao.
Alors, on va partir en musique. Avec, j'ai le temps de l'annoncer quand même, Big Flo et Oli qui nous chantent plus tard.
Big Flo et Oli, tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard.
Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission, Denis Martin. Alors pour la Fondation, pour la campagne Réchauffons le cœur des patients, on en a parlé avec Claude Meunier et avec Alain Choquette. On les remercie beaucoup tous les deux d'être venus au micro.
Oui, puis il faut aller sur fondationduchum, en un seul mot en minuscule, .com.
Bravo!
Ah, je suis pas
merci,
pire, hein?
Merci à toi d'avoir été là, Denis Martin. Un petit mot de la fin?
Oui, ben, je voulais juste vous dire à tout le monde et à toi, Arlette, je se tenais ce week-end mon premier salon du livre de la diversité des
oui.
orientations sexuelles et de la diversité aussi des affirmations de genre à la Comédie de Montréal, notre ami Jamin.
Oui.
Écoute, ça a été un succès phénoménal. Je vais en reparler éventuellement, mais phénoménal. Il y avait 350 personnes qui étaient là. Il s'est
cool.
vendu pour au-delà de 8 000 $ de livres. Je pense que c'était un événement rassembleur. Un événement qui a fait du bien. On a vu beaucoup, beaucoup de monde et c'est présentement en diffusion, en différé sur tous les événements qu'on avait sur scène, sur la chaîne YouTube de Fierté
D'accord.
littéraire.
OK.
Allez voir ça.
Ah ben oui, mais c'est une super bonne nouvelle. Au milieu de tout ce qu'on a, une bonne nouvelle comme ça.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Alors, merci pour tous les livres que tu nous as conseillés. Vous pouvez réécouter l'émission pour prendre note, ralentir, arrêter, puis prendre le temps de noter tous les livres dont tu nous as parlé. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour finir la semaine ensemble.
Puis, nous, on souhaite des bonnes fêtes.
Puis
on se revoit en 2022.
Des bonnes fêtes, bien sûr. Passe de bonnes fêtes, Denis Martin. Prends bien soin de toi. Au revoir.
Aussi.
Merci, Maurice Bolduc, pour les chansons qu'il a
bonne
trouvées pile poil, comme d'habitude. Au revoir. À demain.